Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est en direct, ensemble jusqu'à 20h55 avec l'équipe du vendredi, une équipe 100% masculine. Bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir.
Mohamed, votre story ce soir.
C'est un homme qui est encore plus entré dans l'histoire, il se nomme Cristiano Ronaldo. Hier, on a vu les larmes de la star portugaise et surtout, il est entré dans la légende encore plus du football et vous le saurez dans quelques secondes pourquoi.
Parce qu'il a marqué un but.
Oui, voilà. Et pas n'importe quel but.
Et pas n'importe quel but, c'est dans la story de Mohamed. Aujourd'hui, 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Les violences sexuelles à l'égard des femmes, c'est aussi l'objet de votre édition.
Oui, je vais vous parler de deux affaires de violence conjugale présumées. Adrien Quatennens, le député, et Sofiane Benacer, le comédien, qui sont l'un et l'autre mis en accusation. Et ça suscite beaucoup de débats.
Le regard sur cette actualité de la philosophe Sylviane Agajinski. Bonsoir.
Du coup, l'équipe n'est pas complètement masculine. Hein,
mais vous n'êtes pas encore partie de l'équipe, chère Sylviane.
Non, c'est vrai, mais pas pour ce soir.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de votre ouvrage « Face à une guerre sainte ». Mais plus généralement, vos travaux ont toujours été traversés par la question des relations entre les femmes et les hommes, le rapport au corps, la maternité, la parité. C'est de tous ces combats dont on parlera ce soir. Mathieu, dans le 5 sur 5.
Rendez les armes. Le ministère de l'Intérieur organise une grande collecte. Bah, vous avez peut-être une carabine héritée du grand-père au fond d'un grenier.
Non.
Bref, il y a des millions d'armes qui dorment chez les Français. Le ministère de l'Intérieur veut les récupérer. Et là où on était, figurez-vous que c'était un grand succès aujourd'hui.
Ah oui, donc beaucoup d'armes ont été rapportées
À la police.
À la police aujourd'hui, c'est le début d'une bonne nouvelle, oui.
C'est le début d'une bonne nouvelle.
Pierre, votre œil ce soir.
Je vais vous parler, je vous donne rendez-vous avec Iggy Pop, pas pour parler sexe, drogues et rock'n'roll, mais pour parler poésie et en français.
Iggy Pop et puis la troupe de Starmania ce soir dans C'est à vous. Starmania qui fait son grand retour à la scène musicale à Paris, c'est un triomphe. Il faut dire que c'est une mise en scène absolument époustouflante signée du prodige Thomas Joly. C'est l'homme qui est chargé aussi de mettre en scène les cérémonies d'ouverture et de clôture des JO à Paris en 2024. Beaucoup de talent donc ce soir à partir de 20h sur le plateau de C'est à vous autour du dîner préparé par notre chef étoilé de la semaine, Vincent Félix Favre. On commence tout de suite par l'édito de Patrick Cohen. Patrick, votre édito sur les violences conjugales, leur ampleur et leur perception dans la société.
Ampleur considérable établie par les études, confirmée aujourd'hui encore par un sondage IFOP, une vaste enquête réalisée en novembre auprès de 4000 personnes pour la Fédération Solidarité Femmes. 9% des femmes qui vivent en couple, 9% donc près d'une sur 10, disent avoir fait l'objet de violences physiques ou sexuelles au cours de l'année écoulée. Et si vous y ajoutez les insultes, les injures ou le dénigrement, les violences psychologiques, ce chiffre monte à 14%. Une femme sur 7 victime, donc, se déclarant victime de son conjoint. Maintenant, la perception de ce fléau par les hommes. Est-ce que vous considérez que gifler sa femme, c'est une violence conjugale ? 12% des hommes répondent non. Même chiffre pour les viols entre conjoints. 12% considèrent qu'un rapport sexuel forcé n'est pas une violence conjugale. Déni effarant, scandaleux, qui pèse sur les affaires les plus médiatiques et écrase le principe de la présomption d'innocence.
Vous voulez parler des accusations contre le député Adrien Quatennens et le comédien Sofiane Benacer. Est-ce qu'ils font partie de ces 12%?
Ça pourrait être l'une des questions et ça fait partie des soupçons de ceux qui voudraient qu'ils disparaissent. Sofiane Benacer d'abord, jeune comédien de 25 ans, révélation du dernier film de Valéria Bruni-Tedeschi, Les Amandiers. Le Parisien a révélé cette semaine que 4 de ses ex-compagnes l'avaient dénoncé et que l'acteur a été 3 fois mis en examen pour des faits de viol et de violence sur conjoint. Sofiane Benacer clame son innocence, il dit qu'il n'a rien fait, refuse, je cite, qu'une simple accusation sans fondement puisse détruire une vie. Le problème, l'un des problèmes, c'est que ces révélations n'en étaient pas pour le milieu du cinéma, que la première plainte a été déposée en février 2021, il y a un an et demi, que le Théâtre National de Strasbourg, où étudiait le comédien, en avait alors été alerté, et que quelques mois plus tard, sur le tournage des Amandiers, l'équipe du film connaissait l'existence, sinon de cette procédure, en tout cas des faits qui lui étaient reprochés, ce que montre la longue enquête du journal Libération ce matin avec les photos des collages sauvages sur le lieu du tournage, sans doute l'œuvre de militantes féministes, avec ces phrases, Sofiane, acteur violeur, une plainte en cours, ils n'en ont cure. On voit ces photos sur la reproduction du journal Libération. D'après le récit de Libé, la réalisatrice Valéria Bruni-Tedeschi réunit alors l'équipe du film pour défendre la présomption d'innocence de son comédien.
Le film aurait pu être arrêté ?
Non, impossible, dit aujourd'hui l'un des deux producteurs du film, sur la base d'une rumeur ou même d'une simple plainte. Et puis, a-t-il assuré à France Inter, nous ne savions pas tout ce qui lui était reproché.
À aucun moment, la production ne savait avant de l'engager et à aucun moment, la production n'a orchestré la moindre omerta pour faire en sorte que rien ne sorte de cette histoire. Nous ne savions pas qu'il existait une plainte. Il était absolument impossible d'arrêter le tournage et de virer Sofiane. Pour une raison très simple, c'est que nous n'avons aucune base juridique pour faire ça. Si jamais il voulait nous attaquer au prud'homme pour licenciement abusif, il gagnerait à tous les coups, parce que ça n'a rien à voir avec son travail.
Le producteur qui affirme par ailleurs, c'est important, que rien de répréhensible ne s'est passé sur le tournage. L'affaire embarrasse aussi l'Académie des Césars qui venait de placer il y a moins de 10 jours Sofiane Benacer sur la liste des meilleurs espoirs éligibles à une récompense. Il a été promptement retiré. Valéria Bruni-Tedeschi dénonce aujourd'hui un lynchage médiatique. Elle rappelle que le comédien n'a pas été jugé, confirme avoir eu connaissance de rumeurs pendant le tournage et avoir subi les craintes et réticences de ses producteurs, à qui elle a répondu qu'elle ne pouvait envisager de faire le film sans lui. Parole de plaignante contre présomption d'innocence, c'est un conflit de principe déjà éprouvé depuis le début du mouvement MeToo, mais c'est la première fois qu'une femme, une cinéaste, se place en opposition au schéma habituel.
Côté politique, l'avenir d'Adrien Quatennens paraît de plus en plus compromis.
Oui, parce que son épouse a subitement pris la parole pour l'accuser non plus seulement d'une gifle qu'il avait reconnue, mais de violence depuis plusieurs années. Révélation qui a légitimement provoqué un choc dans le monde politique avec des appels à la démission qui se sont multipliés, on les a entendus, et un énorme embarras chez les Insoumis qui préparaient son retour à l'Assemblée nationale. Le choc est compréhensible, mais encore une fois, il ne repose sur rien d'autre qu'une accusation sans preuve, ni jugement, ni même enquête, puisqu'Adrien Quatennens s'est convoqué le 13 décembre à Lille pour une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, ce qu'on appelle souvent un plaidé coupable, pour la gifle et une série de SMS. Aucune autre infraction n'a été retenue, il y a eu une enquête, alors que son épouse a déposé 2 mains courantes, puis une plainte le 26 septembre, mais selon l'avocate du député, sans ajouter d'éléments nouveaux à ceux contenus dans ses mains courantes.
Il n'y aurait donc pas de raison de l'accabler davantage.
Il n'y a pas de raison factuelle, il n'y a pas de raison judiciaire en tout cas. Adrien Quatennens se retrouve pris au piège d'un principe, et c'est un problème, désormais érigé en vertu cardinale au nom d'une juste cause, répétons-le, la parole des femmes qui accusent est sacrée, elle est vraie. Par principe, l'accusation vaut condamnation et bannissement.
Sylvia Nagajinski, quel est votre regard sur ces affaires, mais plus globalement sur la question que soulève Patrick, que des paroles de plaignantes s'opposent systématiquement à la présomption d'innocence et que ce conflit de principe semble quasiment insoluble avec la médiatisation de plus en plus générale de ces affaires?
Je pense que Patrice Cohen a extrêmement bien, permettez-moi de le dire, résumer les choses et poser le problème finalement. D'un côté, on a un problème de société extrêmement grave, extrêmement profond. Vous avez rappelé les féminicides, les violences conjugales, mais pas seulement conjugales d'ailleurs. Hein.
Et le déni.
Et le déni. Et aussi les longues années pendant lesquelles tout ça tout de même était caché, était feutré, était non dit, faisait honte, etc. Et puis à l'extrême, on a aujourd'hui cette possibilité de dénoncer quelqu'un, d'accuser quelqu'un, par exemple dans son milieu professionnel, amical, dans l'entreprise, etc. Et tout à coup, la chose est lancée et sans enquête, sans la justice, sans démonstration, sans preuve, effectivement, un homme peut se trouver tout à coup exclu de la société, exclu de son parti, on lui dit qu'il faudrait démissionner, etc. Et on dit il faut entendre les femmes. Oui, il faut entendre les femmes, il faut d'abord écouter les femmes, mais lorsque je lis il faut croire les femmes, oui, non, pas sans preuve. Je veux dire, il y a eu des histoires dans le passé, vous vous rappelez peut-être ce film avec Jacques Brel, un instituteur, qui est l'histoire d'un instituteur qui avait été accusé par une petite fille de 12 ans, je ne sais plus. Elle était très amoureuse de lui, n'a pas répondu, bien entendu, à sa sollicitation. Et pendant un moment, cet homme a vécu un enfer. Bon, là, c'est une petite fille, c'est particulièrement grave. Mais je veux dire que une accusation doit passer maintenant, une accusation de violence, de violence physique, de violence sexuelle, doit passer par la justice. Il doit y avoir une plainte, ça doit passer par la justice. Et il ne s'agit pas... Moi, j'ai ressenti un peu... Hein, je ne sais pas si je devais rire ou pas, c'est sûrement pas drôle, mais je veux dire, lorsque des collègues dans une entreprise ou à l'Assemblée commencent à faire des enquêtes discrètes ou secrètes sur les scènes de ménage que vive quelqu'un, non, ça pour moi, ce n'est pas possible. Mais je voudrais ajouter autre chose aussi. À moins qu'on revienne sur les violences faites aux femmes plus longtemps. Mais il y a deux choses. D'abord, quand on réfléchit, on a toujours l'idée de ne pas hurler avec les loups, ni avec les louves d'ailleurs. Et donc, j'aimerais attirer l'attention sur le fait que les violences conjugales, je dis ça peut-être parce que j'ai beaucoup travaillé sur Strindberg et le couple strindbergien, mais les violences conjugales ne sont pas toujours unilatérales. J'ai lu tout un tas d'histoires où une femme, quand son mari prend la retraite, alors c'est la vengeance, hein, peut-être, c'est la vengeance. Vous avez des hommes qui ont été dominateurs, tyranniques, qui ont joué jadis sur le droit, aujourd'hui sur leur machisme ou autre. Et puis l'homme arrive à la retraite, et puis il est malade, et on se venge. Il y a des violences morales dans l'autre sens. Alors bon, je ne veux pas non plus...
dédouaner
quoi que ce soit de ce qu'on a dit avant sur les violences faites aux femmes qui sont massives par rapport à celles-là. Mais simplement apporter des nuances, montrer que les questions sont plus complexes. Et pour ajouter une dernière chose, lorsqu'on veut s'en prendre aux violences faites aux femmes et les corriger, et c'est très important, et le rôle des lois est central, de la répression est central, de l'école est central. Mais dans une société comme la nôtre, il y a quelque chose de plus que les historiens appelaient jadis la mentalité, les idéologies, la mentalité. Et il faut voir aussi que dans la violence masculine, il y a des choses qui passent par cette mentalité et qui passent par les pratiques sociales, qui passent par l'image des femmes qui est donnée dans une société. Et j'en prendrai seulement deux ou trois exemples. Les systèmes prostitutionnels et la pornographie. Le troisième, on en parlera peut-être plus tard. La pornographie aujourd'hui, c'est étroitement lié au système prostitutionnel et ça va ensemble. Beaucoup de femmes sont piégées par les entreprises de pornographie. Elles se laissent prendre au piège d'une fois avec leurs petits copains, etc. Et elles subissent des violences sexuelles extraordinaires qui sont filmées et que nos ados peuvent voir aujourd'hui sur Internet. Et d'autre part, si on se prétend favorable à l'égalité des sexes et contre les violences sexuelles et qu'en même temps, on n'est pas résolument... comme l'a été, au fond, Najat Vallaud-Belkacem en organisant la pénalisation des clients, favorable au démantèlement des systèmes prostitutionnels, c'est-à-dire les femmes qu'on fait venir de l'étranger, le proxénétisme, etc. Si on n'est pas résolument contre ça, quelle image de la femme on donne? Et est-ce qu'on n'est pas, en fait, entouré, finalement, de violences faites aux femmes à travers les images qui ne peuvent que... confirmer certains virilismes, certains machismes, certaines violences, etc., dans la tête de certains hommes. Il y a là une contradiction. Je pense que si on se bat contre les violences faites aux femmes, il faut considérer ces systèmes avec beaucoup plus de sérieux et d'action.
Pour changer les esprits durablement. Hier, l'Assemblée nationale s'est prononcée en faveur de l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. C'est un symbole que vous attendiez ?
Que j'attendais, je ne dirais pas forcément ça. Je suis contente qu'il ne soit pas possible de revenir en arrière. Ça, c'est, je crois que c'est pour ça aussi qu'il y a une certaine unanimité. Donc ça, j'en suis contente. Alors en même temps, là aussi, par souci de nuance, mais certainement pas de contradiction, je dirais que je ne voudrais pas que des proclamations, des grands principes, etc., masquent les difficultés de l'application de la loi sur la liberté d'avorter et qu'aujourd'hui, les femmes qui sont en situation de devoir avorter ne rencontrent pas autant de difficultés. Il faut des médecins, il faut des services qui soient disponibles. Et ça, c'est l'urgence. Et ça, il faudrait agir aussi en ce sens-là.
130 centres d'avortement qui ont été fermés ces dernières années en
voilà.
France.
Voilà. Et là, je pense que c'est peut-être encore plus important et peut-être encore plus urgent aujourd'hui que les proclamations un petit peu symboliques, peut-être, mais enfin, que je reçois favorablement, bien sûr.
Au Seuil, vous publiez « Face à une guerre sainte ». Cette guerre, c'est celle que mènent les islamistes et l'un de ses symboles, c'est le voile. Et dans ce morceau de tissu, c'est d'abord le symbole de l'autorité masculine.
Oui, de l'autorité masculine et bien plus que ça. C'est le symbole aujourd'hui d'un système, d'un mode de pensée que les spécialistes appellent les islamismes et qui est beaucoup plus fort que dans les islams traditionnels. Je dis les islams parce que j'ai trouvé l'expression chez un certain nombre de spécialistes. Moi, je me suis mise à l'école des spécialistes. Hein. Je n'étais pas islamologue d'aucune façon, ni historienne. Donc, je n'apprendrai rien aux gens qui ont lu Keppel, Olivier Roy, Micheron et Rougier, par exemple. Mais j'ai compris une chose, c'est que les islamismes sont des doctrines récentes, hein, les frères musulmans, 1928, le salafisme, la montée du salafisme dans le monde musulman et ailleurs. J'ai compris une chose, c'est que nous ne sommes pas seulement face à des difficultés parce que c'est une culture différente et que c'est une culture sexiste. Je reviendrai au voile, si vous voulez.
Oui.
Nous sommes en difficulté, et c'est ce que j'essaye d'expliquer le plus simplement possible dans ce livre, parce que l'islam est en guerre contre lui-même. C'est un monde, on l'oublie trop souvent, on le sait, mais on l'oublie. Le monde islamique est depuis des siècles et des siècles profondément en guerre contre lui-même, les chiites et les sunnites, bien sûr, et que les islamismes ont réveillé, avec leur radicalité, avec leur fondamentalisme, avec leur doctrine politique, ils ont réveillé une espèce d'islam théoriquement originaire, qui est purement mythique, hein, mais qui se veut plus pur, plus rigoureux, plus sévère avec les femmes, plus rigoureux avec les femmes également. Pour le coup, on peut parler de patriarcat. On n'est pas, nous, dans une société patriarcale. Hein, ça ne tient pas debout. C'est, pour le coup, patriarcal. Et ce réveil, en quelque sorte, de cet islam intégriste porté par ces grandes doctrines et par ces mouvements extrêmement actifs dans le monde, se traduit par le retour vers la subordination des femmes et le voile, dont on peut dire très simplement que c'est le drapeau des islamistes. Mmh. C'est rien d'autre. Et c'est lié étroitement aux doctrines juridiques de ces islamistes, à savoir un droit familial où les femmes sont complètement subordonnées aux conjoints, n'ont pas de liberté, ne peuvent pas sortir sans contrôle conjugal, n'ont pas l'autorité sur l'éducation des enfants, etc. etc. Tout ça, le voile fait partie de ça.
Comment vous expliquez que certaines féministes défendent les femmes voilées au nom de leur liberté ?
D'abord parce qu'elles ignorent l'histoire du voile. Moi, j'ai travaillé longuement sur l'histoire du voile. Il y a une tradition, et je ne sais pas si j'ai le temps d'évoquer l'histoire, mais c'est extrêmement important. Le voile qui ne laisse voir d'un œil, j'ai découvert ça chez Tertullien, au IIe siècle après Jésus-Christ, donc bien avant l'islam. Il y a le voile des Romaines, les matrones, les femmes mariées de la haute société romaine portaient la rica et ne devaient pas l'enlever, sinon elles risquaient carrément d'être comment est-ce qu'on dit ?
Oui, c'est
répudiées. Merci, je ne trouvais plus le terme. D'être répudiées. Et puis vous avez le voile chrétien, on demande aux chrétiennes de se voiler, y compris aux jeunes filles. Il y a eu une crise, les jeunes filles ne voulaient pas porter le voile. Non, mais non, c'est que pour les femmes mariées. Pourquoi ? Parce que c'était le symbole de la subordination conjugale. Et puis vous avez le voile musulman, et notamment le développement d'une culture, et j'en aurai fini, qui s'est développée notamment dans la région indo-pakistanaise, que j'appelle la culture du rideau, parce que c'est le purda, c'est-à-dire c'est une culture qui dit quoi ? En deux phrases, c'est une culture qui pose la ségrégation des sexes et qui dit aux hommes, vous ne devez pas voir les femmes, et comme ça les autres hommes ne vont pas voir la vôtre, ne vont pas la désirer, etc. Et donc il y a des paravents, il y a des portes, il y a une séparation totale dans la vie sociale, et puis il y a ce rideau particulier, qui s'appelle le purda et qui s'appelle le hijab, hein, qui veut dire rideau également, et que les femmes doivent porter pour se cacher le plus possible. Et pourquoi ? Parce que, et là je citerai Sophie Bessis, elle dit, le drame de ces cultures arabo-musulmanes, c'est que l'honneur des hommes réside sur le corps des femmes. Les femmes sont un bien précieux, c'est le leur, et leur honneur est là. Donc, le regard des autres, donc leur liberté, ça, tout ça n'existe pas. C'est eux qui sont en question, ce n'est pas les femmes. Et je dirais, ce ne sont pas les femmes qui se sont voilées. C'est pour ça que mon chapitre s'appelle « Le voilement », c'est sur le voilement des femmes. Ce sont les hommes qui voilent les femmes parce que c'est leur propriété. Pour résumer.
Depuis le 14 septembre dernier, les Iraniennes et pas mal d'Iraniens manifestent contre la République islamique. Et là aussi, c'est le vêtement qui aura donc été le détonateur de leur colère. De nombreuses femmes protestent en enlevant leur voile. Les manifestations sont de plus en plus durement réprimées, notamment en utilisant l'arme du viol, comme l'ont raconté des témoins cette semaine à la chaîne CNN.
They choose the women who were pretty and suited their appetite. Then the officer would take one of them from the cell to a smaller, private room. They would sexually assault them there. I feel shy talking about this. You can still see what the policeman did. Look here, on my neck. It's purplish. That is why I'm covering it. He forced himself on me.
Some of the victims as young as 14. Many are men supporting female protesters. Their punishment as severe as the women's.
They brought four men over who'd been beaten, screaming intensely in another cell. And one of the men who was tortured was sent to the waiting room where I was. I asked him what all that screaming was about. He said they are raping the men.
Et le viol comme une arme de torture, c'est aussi pour salir, comme vous venez de le démontrer dans votre démonstration tout à l'heure. C'est aussi ça, c'est pas que la cruauté.
C'est pour salir, c'est un symbole de la soumission. Mmh. La preuve, c'est qu'ils violent aussi des hommes. Ouais. Donc là, ça veut dire, c'est une manière de, à la fois d'humilier, de torturer et d'affirmer sa puissance. Et ça a été d'ailleurs utilisé dans toutes les guerres. Mmh. Hein, dans toutes les guerres, il y a ça, viol des femmes, parfois viol des hommes, castration, enfin toutes sortes de choses qui passent par la sexualité. Et en tout cas, le cas de l'Iran aujourd'hui, a l'immense mérite pour nous de nous ouvrir les yeux, si ce n'était pas déjà fait, et de nous ouvrir les yeux aussi sur le fait que les féministes arabes, il y a eu toute une littérature là-dessus, dans les années 20 et 30, avaient commencé à se dévoiler. Ce n'est pas nouveau. Mais là, ce qui est nouveau, effectivement, c'est que ce régime avait fait de la République islamiste, avait fait du drapeau, du voile comme drapeau, le symbole de la République islamiste. Et j'aurais tendance à dire que si jamais cette révolte conduit plus loin et vient à bout, peut-être, je ne sais pas, de cet État, il y aura des conséquences incalculables dans le monde. Parce que la révolution islamique en Iran de 1979 a été une des sources d'inspiration principale de l'islamisation des conflits dans le monde. Que ce soit le Hamas, que ce soit en Palestine, que ce soit en Algérie, etc. Donc si cette république islamique est vraiment renversée, là, bon, je rêve un peu, mais ça aura des conséquences immenses, et en tout cas, ça nous fait comprendre aussi qu'il faut saisir la signification profonde de ce voile, comment il fonctionne dans ces pays-là, et ne pas penser que ça peut être un symbole de liberté individuelle. C'est une extrême naïveté, je dirais.
face à une guerre sainte. Sylviane Agazinski, merci d'être venue ce soir sur le plateau. Vous restez avec nous parce qu'il y a d'autres sujets de l'actualité qu'on voudrait vous soumettre à vous et à nos téléspectateurs, et notamment le retour des soignants non vaccinés à l'hôpital. C'était l'objet hier d'une proposition de loi déposée par la France Insoumise, l'occasion d'un débat qui a tourné à la pagaille générale. D'un côté, la majorité qui multiplie les demandes de suspension de séance, les rappels au règlement, les dépôts d'amendements en rafale. De l'autre, l'opposition qui l'accuse d'obstruction, résultat des échanges houleux, des invectives et des dérapages.
Tous les soignants nous regardent. 99,9% se sont vaccinés. Vous êtes en train de faire une PPL anti-vax, complotiste. Moi, je vous appelle à réfléchir à ce que vous êtes en train de faire.
Je vous rappelle que... La séance est suspendue pour une durée de 5 minutes.
Quand le texte est arrêté à minuit, il est dit suspendu. On ne vous lâchera pas.
Je m'étonne un tout petit peu, honnêtement, du niveau de tension que je n'ai jamais vu en 12 ans de Parlement.
Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout. Tu vas la fermer.
Ah non, non, c'est pas possible. Non, monsieur Servat, c'est une invective. Monsieur Servat, non. Chers collègues, on ne peut pas en venir aux invectives de cette manière-là. La séance est suspendue pour 5 minutes. Pas possible.
Sur le fond du débat, une prise de parole en guise de coup de gueule d'un député qui a perdu son frère non vacciné pendant la pandémie.
Moi, j'ai un frère médecin de la réserve sanitaire qui est mort au combat. Il est mort au combat pour protéger des gens. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas vacciné et parce qu'il a contracté la Covid. Alors, je vous en prie de grâce, soyez prudents. Et je ne voudrais pas, enfin, que dans quelques années, un ministre de la Santé soit convoqué dans la Cour de justice de la République parce qu'on n'a pas protégé nos personnels. Ce que nous avons fait, nous l'avons fait avec fierté.
Bonsoir Jérôme Martin.
Bonsoir.
Médecin généraliste, président du syndicat de médecins, l'UFML, l'Union française pour une médecine libre. Faut-il permettre le retour des soignants non vaccinés ?
Écoutez, c'est un débat qui dure depuis des mois et des mois. Moi, je voudrais rappeler quand même les centaines de milliers de médecins, d'infirmières, d'aides-soignantes, de soignants en général, qui se sont vaccinés, qui l'ont fait très tôt, très tôt, alors qu'ils avaient beaucoup moins de renseignements sur ce vaccin et qui l'ont fait pour protéger les patients, pour se protéger eux-mêmes, parce qu'ils sont d'abord des soignants, parce qu'ils respectent la science. Et un certain nombre de soignants ont, pendant des mois et maintenant des années, tourné le dos à la science. Et ça, c'est grave. Alors, on se pose la question de faire revenir ces soignants. On peut se la poser, elle est légitime. Le seul problème, c'est que le soin... C'est sérieux, ce sont des équipes, il y a besoin de cohésion de ces équipes, et quand vous faites rentrer des gens qui sont, en fait, ceux qui restent, souvent les jusqu'au boutistes, qui en ont fait une religion, qui rentrent, ça pose ce problème de cohésion. On a des gens qui peuvent très bien aller voir des patients, aller faire du prosélytisme anti-vaccin au sein d'une structure de soins. Et ça, ce n'est pas possible.
Ensuite... C'est 4000 soignants qui ont refusé de se faire vacciner, c'est à peu près le chiffre de la Fédération hospitalière de France. Ce sont des anti-vax ? Ce sont des complotistes ?
Écoutez, après, ça fait 2 ans maintenant qu'on vaccine. Donc, ce qui reste quand même, avec toutes les publications, les milliers de publications internationales qui montrent que ce vaccin n'est absolument pas risqué, qui montrent tous les progrès qu'on a pu faire grâce à ce vaccin, les protections des patients. Regardez ce qui s'est passé dans les EHPAD. Regardez au début le nombre de décès qu'on avait dans les EHPAD. Choses qui ont disparu avec la vaccination. Donc on a eu un véritable progrès. C'est vrai que le vaccin a perdu sa capacité de protection sur la capacité à contaminer ou à être contaminé. Évidemment, de variant en variant, il a perdu cela. Mais il a gardé sa protection sur les symptômes graves. Donc quand on est soignant, on se doit de se protéger à soi pour rester dans le soin. Il faut penser que les soignants qui ont fait face, ils ont fait face en quelque sorte à ces démissions. Ils ont fait face et ils ont exercé dans des conditions très difficiles. Certains en sont morts. Et aujourd'hui, on veut refaire rentrer des gens qui ont... Oui, tourner le dos à la science et dont les égéries de leur groupe, en quelque sorte, promettent Nuremberg 2 et des exécutions devant un tribunal populaire aux gens qui ont vacciné. Donc tout ça, il faut quand même le regarder. Et puis, dernière chose, pensons qu'un chef de service, un directeur, a la responsabilité de ses soignants. Si vous avez un soignant non vacciné qui est contaminé, c'est lui qui en prend la responsabilité. Donc tout ça, il faut le réfléchir, quoi. C'est pas si facile.
Est-il vrai qu'à peine un tiers des soignants est à jour de rappel là en ce moment ? C'est ce qu'avance un chef de réanimation de l'hôpital.
Oui, c'est tout à fait possible. On a abandonné la campagne vaccinale, on a laissé le terrain de la communication à toute une frange qui a tourné le dos à la science. Et je l'ai déjà dit sur votre plateau, malheureusement, dans ce pays, on a une santé publique, en quelque sorte, dans sa communication, qui est au ras du sol, quoi. On aurait dû expliquer et réexpliquer comment fonctionne ce vaccin. On est à jeun d'avoir eu une seule campagne de publicité qui montre le fonctionnement et qui explique le fonctionnement du vaccin ARN. Et donc, même chez les soignants, oui, il y a eu un relâchement, oui.
Il y a une inquiétude en particulier sur l'hiver parce qu'on risque d'être face à une triple épidémie. Grippe, Covid, bronchiolite.
Ouais.
Or, il y a un rebond du Covid et un très faible démarrage de la campagne de vaccination contre la grippe, y compris chez les soignants.
Et il y a surtout une structure du système de santé, enfin, un système de santé qui est épuisé, qui est au sol, autant d'ailleurs en médecine de ville qu'à l'hôpital. Et on voit arriver cette vague potentielle de Covid au mois de décembre, une vague qui est plus certaine de grippe, la bronchiolite, vous en avez parlé, qui risque de déstabiliser très fortement à la fois nos hôpitaux et la médecine de ville. Donc c'est pour ça qu'il faut d'autant plus se protéger pour rester devant les malades.
Ou c'est pour ça qu'il faut réintégrer les soignants, parce que c'est ce que disent les promoteurs de la promotion d'hier. On ne peut pas, avec ce système, cet hôpital malade et ce manque de soignants, se priver d'autant de soignants qui pourraient être disponibles dans les hôpitaux.
Mais j'entends bien cela. Mais moi, j'ai besoin d'avoir de la cohésion dans mes équipes en tant que chef de service, puisque je dirige un établissement de soins. Mais tous les chefs de service, c'est pareil. On a besoin de cohésion. Vous ne pouvez pas avoir des soignants qui disent « il faut se vacciner », et un, deux soignants qui disent non, il ne le faut pas. Où ça s'arrête? Où ça commence, où ça s'arrête? Qui va me dire demain, oh, non, on se lave les mains, moi ça ne me concerne pas. Je veux dire, quand on soigne, on a une religion, oui, mais on la laisse à la porte de la salle où on exerce et du service où on exerce. Quand on rentre, on revêt la blouse et là, on n'est que soignant. Mmh. Et on doit respecter l'académie, on doit respecter la haute autorité de santé, on doit respecter les protocoles et les procédures que l'on nous donne et qui ont été vérifiées et validées. Si on commence à faire sa propre religion du soin, il n'y a plus rien.
Vous avez utilisé un mot qui va se retourner contre vous, là. Les antivax vont dire, ben voilà, le vaccin, c'est une religion.
Non, eux, eux se sont fait une religion. Eux se sont fait une religion d'une non-vaccination. Il faut quand même se rappeler.
Alors dites-moi pourquoi, qu'est-ce qu'ils répondent? Pourquoi? Comment explique-t-il et justifie-t-il? Parce que vous dites peut-être, vous avez raison, qu'on n'a pas suffisamment expliqué, mais il m'a semblé quand même qu'il n'y avait pas besoin d'être un grand scientifique soi-même pour comprendre réellement comment fonctionnait le vaccin. Alors, qu'expliquent-ils? Que disent-ils?
Ça m'est très difficile d'expliquer l'inexplicable. Le problème, c'est que face à nous, on a quelques personnes, moi je ne peux prendre que les têtes en quelque sorte, qui vont nous dire, il faut se rappeler quand même, qui nous disent que le vaccin rentre dans le cadre d'un vaste complot international qui vise à éradiquer toute une partie de la population, que ce vaccin rend stérile, que ce vaccin a du graphène à l'intérieur qui va permettre à la 5G de télécommander ceux qui sont vaccinés.
Qui modifie notre ADN.
Qui modifie l'ADN, tout un tas de choses qui sont absolument non scientifiques. Et c'est pour ça que quand on est soignant, on ne peut pas rentrer dans ce type de raisonnement. Donc ça m'est très difficile de l'expliquer.
Si on reparle aussi du Covid, il y a un rebond, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de nouveaux variants. Et en tout cas, c'est sans comparaison avec ce qui se passe en Chine, avec une politique zéro Covid qui passe de moins en moins près de la population. On vous a raconté, si c'est à vous, la rébellion à Canton ou dans les usines Foxconn encore cette semaine. Un homme, Pierre, est devenu un quasi-héros, un rebelle qui a fait le tour des réseaux sociaux.
Aujourd'hui, en tout cas ici, on ne connaît pas son nom, on sait juste que c'est un habitant de Chongqing, au sud-ouest de la Chine. Sac au dos, avec un sac à dos Superman, il a exprimé très violemment et très vivement son mécontentement en pleine rue. Ouvertement et avec le soutien de ses voisins, il a fustigé les mesures de restriction chinoises. Et puis on a vu ensuite les images de son arrestation. La police, vous allez le voir, qui essaie de l'embarquer assez vivement, en lui faisant une clé qui visiblement l'étouffe à moitié, qui le met à terre. La foule crie « c'est un héros, c'est un héros ». Face à ce soutien, la police l'aurait relâché. Ces vidéos ont très rapidement fait le tour des réseaux sociaux avant d'être censurées sur le web chinois.
La politique zéro Covid de la Chine, elle est quand même ahurissante.
On a envie de dire qu'une dictature, c'est ça, quoi. Donc quand on a des gens qui, parmi les égéries, encore une fois, les antivax, disent que la France est une dictature, on a envie de leur dire la dictature, c'est ça.
Une dictature qui a en plus un vaccin pas très efficace.
Oui, en plus.
C'est le problème de la Chine, justement.
C'est ça. Mais pour revenir sur les soignants non vaccinés, et on ne le dit jamais, moi je serais tout à fait pour qu'on travaille à la reconversion de ces gens-là. Parce qu'effectivement, on ne peut pas les laisser sans métier, sans rien. Il faut travailler à leur reconversion. S'ils ont vraiment tourné le doigt à la science, s'ils disent des arguments ou s'ils tiennent des arguments qui sont totalement non scientifiques, il faut les reconvertir dans d'autres métiers.
Qui quittent leur métier de soins.
Ben, je crois, oui.
Merci beaucoup, Jérôme Martier. Vous restez avec nous. C'est la story de Mohamed Bouabsi. On va parler foot, Sylvia Nakajinski. Je ne sais pas si ça vous intéresse.
C'est pas grave. Oui et non.
Alors ça vous a...
Oui, alors.
Ah, ça va vous intéresser puisqu'on va parler de la légende Cristiano Ronaldo qui a démarré hier sa Coupe du Monde avec le Portugal et qui est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.
Sylviane, Jérôme, est-ce que vous reconnaissez cet hymne ?
C'est sûr, c'est l'hymne
portugaise ? Oui, c'est la portugaise. C'est la portugaise qui a résonné hier soir.
Si.
Qui a résonné pour la première fois avec l'entrée en compétition du Portugal en Coupe du Monde et qui a tiré les larmes du joueur Cristiano Ronaldo qui entamait sa 5e Coupe du Monde. Cette image d'un Ronaldo submergé par l'émotion a fait le tour du monde, liké plus de 25 millions de fois hier soir, chacun ayant encore à l'esprit qu'il sort de la pire année de sa vie, car il y a 7 mois, il a perdu l'un de ses jumeaux à la naissance.
It's probably the worst moment that I passed through my life since my father died. In the beginning, you arrive in home and the kids start to say, "Where's another baby?" And after 1 week, I say, "You know, let's be frontal, let's be honest with the kids. Let's say that Angel, which is the name, they go to the heaven. It's better to say in that way.
Yes.
You know, it's part of the lives, and I'm not gonna lie to my kids."
Évidemment, ce n'est absolument pas comparable, mais un autre élément de contexte s'est ajouté à ce drame personnel. Ronaldo a complètement raté sa saison footballistique. Son retour l'an dernier dans le club de sa vie, Manchester United, a été un énorme flop. Après une guerre de communication avec son entraîneur, le club a brutalement annoncé la fin du contrat de la star portugaise. Il y a quelques jours, il se retrouve donc sur le marché à 37 ans, libre totalement. Il peut signer partout où il veut à partir de demain. Les journalistes portugais se demandant même s'il n'est pas fini. Oui, cette question a existé au Portugal la semaine dernière. Il leur a répondu en conférence de presse avec un ton très agacé.
Obviamente, vocês estão do vosso lado, é fácil opinar, fácil escrever, muitas vezes verdades, muitas vezes mentiras, ou a maior parte. Eu não tenho que pensar naquilo que os outros pensam. Tenho a certeza absoluta que não vai influenciar naquilo que a seleção quer. Todos os jogadores me conhecem, os treinadores, o staff, os presidentes, os roupeiros, toda a gente me conhece. E sabem aquilo que eu sou, sabem aquilo que eu penso, conhecem-me desde os 11 anos. Não serão influenciados pelo aquilo que os outros dizem ou pelo aquilo que os outros escrevem.
Et oui, si je suis moins bon, c'est parce que les journalistes disent des bêtises. C'est la réponse de Cristiano Ronaldo. Mais la meilleure réponse, c'est une nouvelle fois sur le terrain que Ronaldo l'a donné. Il l'a prouvé quel joueur unique il était en inscrivant sur penalty un but historique. Il est devenu le premier footballeur à marquer dans 5 Coupes du Monde différentes. Il a commencé en 2006. Nous sommes en 2022, c'est assez simple. Il a ainsi dépassé le record d'une autre légende, le Brésilien Pelé, qui s'était contenté, si j'ose dire quand même, d'avoir marqué dans 4 Coupes du Monde. On a demandé à la grande plume de l'équipe, Vincent Duluc, actuellement à Doha, au Qatar, ce qui faisait de Ronaldo un footballeur si spécial.
Ronaldo est entré dans l'histoire parce qu'il est devenu le premier joueur à marquer dans 5 Coupes du Monde. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'il était le plus jeune buteur de l'histoire du Portugal à la Coupe du Monde 2006 et qu'il est devenu le plus vieux buteur de l'histoire du Portugal. Ça fait de Ronaldo une légende, mais ce n'est pas ça qui va aider Ronaldo à être le meilleur joueur de l'histoire. Ce qui peut seulement départager les meilleurs joueurs de l'histoire, c'est de gagner un jour la Coupe du Monde. Et pour Ronaldo, c'est la dernière fois. Et je pense que c'est le pourquoi de ses larmes l'autre jour, c'est qu'il commençait à pressentir sa propre fin et la fin de l'histoire.
Alors, si y a des petits problèmes de son, c'est parce que Vincent Duluc est dans un stade actuellement.
Pour... Ah, j'ai vu qu'il était dans un centre commercial.
Non, il est dans un stade, il y a un match qui va démarrer ce soir.
Aussi un stade commercial. Hein, non, un stade.
C'est... Ouais. Mais en revanche, c'est une coupe de football. Donc.
Cristiano Ronaldo a un objectif, il n'a jamais marqué en
phase
match,
finale.
En phase finale.
En phase d'élimination.
Direct, ouais. Élimination directe, donc à partir des huitièmes de finale. Il lui reste ce dernier objectif avant d'arrêter sa carrière. Il a 37 ans, ramener la Coupe du Monde à Lisbonne. Bon. Ce qu'on n'espère pas quand même. Juste, je le rappelle.
Partagez. D'ici là, c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
Bonsoir Babette, bonsoir à toutes et à tous.
L'info a fait beaucoup de bruit, Mathieu, depuis hier. Trois juges enquêtent sur la sincérité des comptes de campagne d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022.
Ce qui a retenu l'attention immédiatement, c'est aussi qu'en toile de fond, c'est la question des liens entre le chef de l'État, ses proches et le cabinet de conseil McKinsey et qui se pose. On a beaucoup dit sur la proximité du président de la République avec ce cabinet, notamment pendant la dernière campagne. Selon Le Parisien, qui cite le parquet national financier, une information judiciaire vient de s'ouvrir pour des soupçons de financement illégal de ces deux campagnes victorieuses. Hier, au moment où l'info est tombée, Louis Amar et Anaïs Recouli étaient à l'Assemblée nationale. Écoutez ces réactions. Sandrine Rousseau pour l'opposition et Patrick Vignal pour la majorité.
On voyait bien qu'il y avait une connivence très forte entre McKinsey et Emmanuel Macron. On l'avait vu notamment dans l'ensemble des contrats qui étaient passés. Et donc il y a un sujet, d'une manière générale, de toute façon, d'une connivence avec les lobbies chez Emmanuel Macron, mais là, McKinsey en particulier. Donc je ne suis pas surprise.
Jusqu'à maintenant, on a fait appel à des cabinets extérieurs pour nous aider à nous accompagner. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on pourrait former encore mieux nos fonctionnaires et que dans quelques temps, on n'ait plus besoin de McKinsey. Je n'ai pas dormi avec Emmanuel Macron, je fais partie de son équipe. Enfin, je veux dire, voilà, moi, je suis dans mon territoire rural à me battre pour que les gens puissent avoir de la liberté, à me battre que les gens puissent avoir de la mobilité et se déplacer. Donc, je ne peux pas vous répondre très sincèrement.
Pour aller plus loin, nous avons demandé à Mathieu Aron ce que le parquet national financier, le journaliste Mathieu Aron, qui a enquêté sur ces cabinets de conseil et leur proximité avec leur pouvoir, avec la décision publique, nous lui avons demandé ce que le parquet national financier peut bien chercher dans son enquête.
Ce qu'on sait, c'est que lors de cette campagne électorale, le parti En Marche d'Emmanuel Macron a eu le soutien de au moins 6 consultants de McKinsey. Soit ces consultants sont intervenus à titre bénévole, à titre personnel, comme tout citoyen français peut aider pendant une campagne électorale, et là il n'y a pas de souci judiciaire. Soit ces consultants sont intervenus avec un statut moins défini, peut-être un peu plus trouble. Ce sont ce genre de choses que va vérifier maintenant le parquet national financier. Au-delà des questions de droit, il y a des grandes questions de principe. Or, les Français, quand ils votent lors des élections, ils n'élisent pas des cabinets de conseil. Si on s'aperçoit que ce sont les cabinets de conseil qui dictent, en quelque sorte, la politique, alors on a un souci démocratique.
Et il faut le préciser, le communiqué du parquet national financier ne fait pas état de, ne mentionne pas la notion de financement illégal de campagne. En marge de son déplacement à Dijon aujourd'hui, Emmanuel Macron a évidemment été interrogé sur la question et il souligne qu'il n'est pas forcément directement visé.
Vous n'avez pas échappé que parfois les comptes de campagne pouvaient y avoir des problèmes. Les miens, ils ont été regardés comme tous les candidats de 2017, déjà vus. Et puis ceux de 2022, ils sont comme tous les candidats à la dernière élection, en cours de revue. Donc les choses se feront normalement, elles doivent se faire, je dirais, avec sérénité et transparence. Il y a un sujet avec beaucoup d'attaques politiques qui ont été faites sur la question d'un cabinet de conseil, et c'est sur ce sujet que qu'a été ouverte une instruction judiciaire. Bon, ben, il faut que la justice fasse le travail sur ce sujet. Vous avez raison de rappeler que ce n'est pas votre serviteur. Alors certains voudraient le politiser. Je veux que la justice fasse son travail de manière normale.
Rendez les armes. C'est l'appel lancé par le ministère de l'Intérieur.
Oui, les Français qui possèdent illégalement une arme sont appelés à la rendre dans les prochains jours. C'est en fait une grande collecte nationale qui est lancée pendant une semaine. Elle vous concerne peut-être. Si vous avez découvert par hasard dans le grenier ou la cave un vieux fusil de chasse du grand-père, un pistolet, une arme blanche, des munitions même, le ministère de l'Intérieur estime que 5 à 6 millions d'armes sont concernées sur le territoire. Parmi les 300 sites de collecte, il y en a un à Melun, où Louis Amar et Anaïs Recouli se sont rendus aujourd'hui. À peine l'opération lancée, elle connaît déjà un grand succès.
Ah bon ? Une campagne d'information avait été réalisée. Maintenant, effectivement, on ne s'attendait pas à autant d'armes. Nous avons 3 sites au niveau police nationale. On a le site de Chessy, le site de Nemours et ici Melun. Et j'ai appris tout à l'heure qu'à Chessy, les déposants faisaient la queue. donc pour remettre leurs armes. On a récupéré des armes de catégorie C, des armes de chasse hein, principalement. Et ensuite, on a des armes comme celle-ci, une arme de poing, hein, donc une arme de collection. C'est la seule arme de poing que nous avons récupérée depuis ce matin. Ça correspond tout à fait à nos attentes, parce que la majorité des armes qui allaient être rendues, on s'attendait réellement à des armes de chasse.
Alors attention, si vous pouvez rapporter vos armes dans les jours qui viennent, ensuite vous serez dans l'illégalité. Il faut les rapporter ou au moins les faire enregistrer si vous souhaitez les garder. Écoutez ce que vous risquez si vous ne rendez pas ces armes.
Ça peut aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Ça c'est dans les cas extrêmes, circonstances aggravantes. Globalement, vous risquez pas grand-chose parce que si vous saviez pas ou qu'on vous a jamais dit qu'il fallait le faire enregistrer, on vous dira juste qu'il faut le faire enregistrer. Par contre, selon les circonstances, ça peut aller jusqu'à être inscrit au fichier d'interdiction de détenir une arme. Ça peut aller jusqu'à 15 ans. Et vous pouvez aussi avoir une amende de la prison. C'est cumulé avec d'autres facteurs, forcément, mais ça peut aller jusque-là, ouais.
Louis Amar et Anaïs Roucouli ont ensuite eu la chance de croiser Michel, qui venait justement déposer des armes illégales non déclarées.
Ils viennent déposer des armes qu'on avait à la maison en héritage depuis très longtemps. Elles étaient pleines de poussière. Il y en a même une, je crois, qui soit presque de période historique. Quand on a vu qu'il y avait justement la possibilité de venir s'en défaire à partir d'aujourd'hui, ben on en a profité. Les connaissances, elles n'ont pas servi depuis au moins 50 ans. Au moins.
C'est possible qu'elle date d'il y a plus d'un siècle, comme dit le monsieur ?
Oui, c'est possible, tout à fait, oui.
C'est un joli usinage, hein. c'est joli, quoi. Ah,
vous voyez, quand vous la voyez comme ça, d'un coup, vous dites qu'elle va vous manquer.
Je ne connaissais pas. Enfin, je vais vous dire, elle était enveloppée dans un chiffon depuis des dizaines d'années, au-dessus d'une armoire.
Vous n'en aviez pas usage, vous ?
Oh, pas du tout. Puis j'ai pas envie d'avoir un usage d'armes à la maison. Je suis de ceux qui sont tout à fait contre la nécessité d'avoir une arme chez moi.
Patrick, la 22 long rifle que vous avez sous le bureau, là, il va falloir la rendre. Vous avez une semaine, a priori. Alors, à noter que si le trajet est impossible avec l'arme en question, parce qu'on peut se poser la question, quand on se balade avec un fusil sur la départementale, il est possible aussi de contacter la préfecture de son département pour qu'on vienne la chercher chez vous, un peu comme les encombrants.
D'accord.
Bon. Ça et tout.
Quelqu'un est concerné par cette mesure ?
Non, mais moi, ça ne m'étonne pas tellement, cette histoire, parce que j'ai eu, il y a pas mal d'années, une voisine qui me demandait qu'est-ce que je peux faire ? J'ai des grenades à la maison. Mon père avait gardé ça de la dernière guerre et elle a contacté la police pour savoir. Ils sont venus pour la débarrasser de ses armes. Donc. Mais c'est dommage, c'est un modèle qu'il faudrait donner aux États-Unis. Il leur dit, vous devez regarder.
Exactement, je pensais à ça. Je fais, il ferait une sacrée collecte aux États-Unis.
Pas
mal,
hein. C'est le mouvement inverse aux États-Unis.
Mais
qui viennent volontairement, spontanément rendre les armes, entre guillemets.
C'est un dossier dont Mathieu nous parle depuis plusieurs jours et qui a vraiment mobilisé toute la rédaction de C'est à vous. L'État veut revitaliser et embellir les villes moyennes.
Oui, c'est le programme Action Cœur de Ville qui avait été lancé d'abord en 2017 hein, avec une enveloppe de 5 milliards d'euros. Eh bien, on prend la même recette et on recommence. Je ne veux plus qu'on parle de la France moche, dit la ministre déléguée aux collectivités territoriales, qui annonce la même somme pour 234 villes de 20 à 100 000 habitants. Ces villes qui, ces dernières décennies, ont vu leurs entrées défigurées par des zones industrielles et commerciales, par des panneaux de pub dans tous les sens. Nous nous sommes rendus à Orléans. Alors Orléans, avec la métropole, ça va jusqu'à 290 000 habitants. En compagnie du maire, Audrey Payas et Camille Schmitt ont pu mesurer cette problématique des entrées d'agglomération.
On vient de sortir de l'autoroute Orléans-Nord, donc on est sur une des grandes entrées par ce qu'on appelait autrefois la N20 Nord. On arrive sur Orléans et avec cette, comme vous le voyez, cette déstructuration urbaine. On a un espace public avec des panneaux publicitaires. On a ces poteaux, avec tous ces câbles aériens qui sont très moches. Il y a tout ce qui fait une déstructuration urbaine. Donc vous n'avez pas d'alignement. Une avenue qui n'a quasiment pas de trottoir. Donc à pied, c'est compliqué de passer par là, surtout quand il pleut. Vous avez très peu de végétalisation. On est dans une sorte de no man's land. Malheureusement, la plupart des villes de France ont été esquintées dans l'après-guerre par tous ces aménagements qui étaient faits dans les Trente Glorieuses, avec à l'époque leur justification, mais qui aujourd'hui, effectivement, présentent ce paysage vraiment dans lequel on ne se sent pas bien.
Une fois sur la zone commerciale, nous avons pu échanger avec des habitants, également des habitants de l'agglomération d'Orléans. La laideur de ces commerces et des entrepôts fait l'unanimité. Mais attention, sur les projets à venir, il peut y avoir débat.
C'est vrai que c'est pas super accueillant.
C'est ni pratique ni beau, mais de toute façon, c'est comme ça.
On s'habitue, on les voit plus, c'est ça qui est triste.
On a une ville qui est super jolie, qui a été extrêmement bien réhabilitée, qui a un centre-ville magnifique, historique, et toutes ces zones commerciales ne reflètent absolument pas la ville.
On pourrait être n'importe où, c'est toujours les mêmes centres, les mêmes magasins.
Il faut bien que les commerces en vivent.
C'est vrai qu'on a tout à proximité, mais après, oui, c'est pas très 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 joli.
Ce qui prime, c'est pas trop l'embellissement de l'environnement. Si on peut... sur le chemin, capter des enseignes comme ça, pas cher, bah pourquoi pas.
Ils devraient laisser des zones un peu plus vertes, quoi. Parce que bon, c'est trop concentré tout ça, quoi.
Alors ensuite, pour aller plus loin, le maire nous a expliqué son principal souci et la raison pour laquelle l'aide de l'État est la bienvenue.
On n'a pas la maîtrise de tout le foncier. Vous avez beaucoup de terrains privés là-dessus. Donc si l'on veut avoir une véritable cohérence urbaine, soit... on converge avec les acteurs privés, soit il faut aller jusqu'à pouvoir acheter et avoir cette maîtrise foncière, et là évidemment avec des coûts exorbitants.
Orléans, c'est une belle ville, la maison de Jeanne d'Arc, les quais de Loire, la cathédrale, le jardin des plantes. En périphérie, c'est plus compliqué, vous l'avez vu, mais le maire a également emmené Audrey Payas et Camille Schmitt au cœur de la ville avec un exemple de projet d'embellissement à venir.
On est en plein cœur d'Orléans, qui est tronçonné par une sorte d'autoroute urbaine. Et vous imaginez ici, au lieu de cette autoroute, une coulée verte, plantée d'arbres, j'allais dire avec peut-être des écureuils qui jouent dans les arbres, et puis des promeneurs. Vous imaginez qu'il n'y a plus ce bruit, quelque chose d'apaisé, où l'on retrouve la beauté de la ville, et où l'on retrouve le plaisir de venir ici.
Il faut se projeter, comme disent les agents immobiliers. Alors comment parler des entrées des villes les plus moches sans évoquer la passion française pour les ronds-points? Avec l'équipe du 5 sur 5, on vous propose une petite sélection ce soir. Cet hommage au train ici, par exemple, on est à Angoulême, où l'on a décidé d'installer un passage à niveau fictif au milieu d'un rond-point. Vous préférerez peut-être ce rond-point de Loire-Atlantique, la Foissière. Là, c'est carrément une soucoupe volante qui s'est posée sur le rond-point de l'espace. C'est ainsi qu'il a été bâti. Plus simple, plus rustique dans l'heure, à Rugles, un rond-point avec des clous géants, 16 clous géants plantés sur une butte d'herbe, pourquoi pas. Une grande ville, tiens, avec une véritable énigme, une saucisse sur un donut. Là, on est à Montpellier.
Il n'y a pas d'explication.
Si on explique que c'est un hommage à Confucius.
D'accord.
Ah bah oui.
Évidemment.
Même un bel hommage.
Ah oui, oui.
À Villeurbanne, une maison à l'envers sur une maison à l'endroit, des bidons bleus sur le côté. Pourquoi ? Je ne sais pas.
D'accord.
Et le rond-point le plus laid de France en 2016, ce serait mon préféré s'il n'avait pas été détruit dans un accident de la route. J'arrive pas à savoir s'il était volontaire ou non, l'accident de la route. Le plus étrange restera sans doute ce rond-point dans la Vienne, à Châtellerault, en ville, mais également depuis l'autoroute, vous pourrez admirer cet étrange lien jaune qui monte vers le ciel, où elle guide des voitures en file indienne. Ce n'est qu'une petite sélection des ronds-points loufoques. Il y en a beaucoup dans notre beau pays.
Le rond-point le plus moche, c'était la maison à l'endroit sur la maison à l'envers.
Ouais, mais il est détruit désormais.
Alors que la saucisse était passée
tranquillement, l'hommage à Confucius, le donut sur la saucisse.
On a entendu des gens dans le reportage là, qui ont l'air de dire, bon, bah, si c'est moins cher finalement, pourquoi pas. Je pense que c'est une grosse erreur, parce que c'est vrai que la laideur, ça touche à beaucoup de choses.
Oui.
Vivre dans un environnement laid, moi j'ai vu ça par exemple, les établissements scolaires, les entreprises, etc.
Ça change
ça rend tout laid et ça affecte littéralement la manière de sentir et de penser. C'est beaucoup plus grave que ça ne semble.
Merci beaucoup, chère Sylviane Agazinski, d'être venue ce soir sur le plateau de C'était vous. Je rappelle, Face à une guerre sainte, c'est votre ouvrage Au Seuil. Merci beaucoup, Jérôme Marty.
Merci à vous.
Pour cette piqûre de rappel. Dans un instant, la troupe
de
Starmania, exactement, est sur le plateau de C'est à vous. Thomas Joly, le metteur en scène, ses artistes, et aussi Bertrand Dica, le spécialiste de la chanson française. On va se régaler. Live à venir, costaud. Ça va envoyer. À tout de suite.
Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous et en vidéo, le replay bien sûr, c'est sur France.tv. À très vite.